France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Produire un rapport sur les rythmes de l'enfance, c'est bousculer toute la société. Nos vies, nos calages quotidiens tournent autour des enfants. Quand ça roule ou quand ça coince d'ailleurs, on s'organise puisqu'ils ne travaillent pas le mercredi avec des systèmes de garde. Mais le partage des heures est aussi fait pour coller au temps des parents, à leurs horaires par exemple et pas seulement. La Convention citoyenne sur le temps de l'enfant a non seulement souhaité remettre l'enfant au milieu du village, mais aussi l'école dans le rythme de l'enfant et pas le contraire. Les mesures phares, vous les avez entendues, on va les rappeler rapidement, 5 jours par semaine, donc pour mieux étaler le temps d'apprentissage qui est trop touffu en trop peu de temps. L'école qui ne commence pas avant 9h parce que c'est là que la concentration est la plus efficace. Des leçons très académiques jusqu'à 15h30 et puis des activités autres qui peuvent aller du sport jusqu'à la cuisine. 45 minutes de cours seulement. On ne change rien en vacances d'été. En revanche, pour que chacun ait le même rythme, 7 semaines de cours, 2 semaines de vacances, on instaure une zone A et une zone B, mais pas plus. C'est bien l'organisation de chacun, l'organisation des mairies, l'organisation des écoles, du secondaire aussi bien sûr, que l'on bouscule. Et en effet, depuis hier, quand les conclusions ont été rendues publiques, ça secoue. Mais c'est quand ça secoue que c'est intéressant. Après, est-ce que ces propositions n'ont jamais figuré dans aucun plan d'un ministre de l'Éducation nationale ou professionnel de la petite enfance? Bien sûr que non. Ça fait presque 60 ans qu'on bouge les heures, qu'on enlève les après-midi ou les matinées, puis qu'on les remet, puis qu'on rechange, sans remonter loin. D'ailleurs, la réforme Payon prenait 4 jours et demi en 2014. Dès 2018, 85% des communes avait jeté l'éponge. Donc on connaît les écueils, on ne connaît pas le budget non plus, et ça pour d'autres raisons. Mais comment faire pour que les questions soulevées restent une vraie base de discussion? C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Aurélia, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue, bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne, merci de prendre mon témoignage. Voilà, moi je voulais réagir en premier, en fait, sur la journée de 5 jours. Parce que mes filles, par exemple, elles sont déjà bien fatiguées. Elles ont 5 et 9 ans. Elles sont déjà bien fatiguées. Elles restent 9 heures à l'école. Elles restent plus longtemps que moi au travail. Et le mercredi, pour elles, est vraiment salvateur. Et j'ai aussi des retours assez négatifs d'amis qui ont leurs enfants qui font 4 jours et demi par semaine. Le mercredi matin, c'est difficile. Et si, par exemple, sur les 5 jours, ça implique d'aller les chercher à 15h30, moi, je pourrais pas.
Mmh. Voilà. Parce que la question que je me posais, et pardon Aurélie, après je vous laisse partir, c'est promis, c'est elle reste 9 heures à l'école, c'est vrai, mais dans l'idée de ce que propose la Convention citoyenne, justement, on reste pas assis à l'école et derrière son pupitre pendant 9 heures, ou en tout cas pendant 8 heures. Est-ce que si l'organisation est différente, vous dites faut voir ou pas?
Oui, il faut voir faudrait voir dans les détails, mais c'est là juste de l'extérieur. Je sais que je pense vraiment au réveil le matin et moi je me dis que ça fait une respiration. Alors c'est vrai aussi que tous les parents ne peuvent pas se permettre de ne pas travailler le mercredi.
Et oui, et voilà. C'est ça aussi qui pose problème et qui parfois crée des inégalités. Je vous remercie Aurélia de l'entrée en matière de cette discussion. Grâce à vous, autour de la table, il y a Kenza Okansay, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le vice-présidente du CESE, le Conseil économique et social environnemental, directeur du comité de gouvernance de la Convention citoyenne. C'est vous qui avez cadré un petit peu tout le monde, ces 133 citoyens. Bonsoir Stéphane Pillan.
Bonsoir.
Merci beaucoup, vous êtes l'un des participations de cette convention citoyenne. Et alors c'est vrai qu'elle met le doigt tout de suite sur quelque chose d'important, notre amie Aurélia, c'est à la fois, il va falloir changer beaucoup de choses dans l'organisation et puis tout le monde ne va pas pouvoir le faire de la même manière. C'est un peu ce que je disais en introduction, changer le rythme scolaire, c'est changer toute la société qui tourne autour. Et c'est ça qui rend les choses presque vertigineuses, Stéphane Pillan, quand même. Ça a été dans vos discussions, j'imagine.
Tout à fait. Tout d'abord, bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs. Merci pour cette question qui permet de remettre un peu l'ensemble du rapport dans son contexte initial, des retours que j'ai pu constater, avec les autres concitoyens que nous avons pu constater. Il y a une focale sur certains aspects, certaines mesures, et on oublie ce qui fait le sens complet de ce rapport, c'est deux choses. D'une part, l'articulation de l'ensemble de ces mesures avec des axes transverses que nous avons mis en introduction, juste après l'introduction. Et ensuite, ces mesures, elles se lient entre elles. Lorsque l'on parle de rester 9 heures à l'école, j'ai tout de suite posé la question de En combien de temps va-t-on à l'école? En combien de temps peut-on rentrer? Quel est le degré d'autonomie, justement, pour pouvoir se débrouiller soi-même, selon les âges, bien entendu, pour aussi accompagner les parents? On va ensuite se demander ce que l'on fait donc après 15h30, vous l'avez évoqué. Nous avons proposé des pistes, mais lorsque l'on parle d'ateliers pratiques, de, par exemple, traiter de sujets qui pourraient être de la physique, mais en acte, ou même des mathématiques, un peu comme un géomètre, hein, travailler sur des distances, qui peut se faire dans une cour de récréation ou ailleurs, on est déjà dans un apprentissage qui reste toujours académique, qui reste toujours théorique, mais qu'on pratique différemment.
Et ça, j'ai bien compris, on y reviendra d'ailleurs. Mais quand même, justement, Kenza Okansé, moi, ce que je vois, il a raison, Stéphane Pillan, c'est un tout. Mais quand on dit que c'est un tout et que l'une chose s'embrique dans l'autre, ça veut dire que c'est, on prend tout. On ne peut pas le prendre par petits bouts. Et c'est peut-être aussi ça le souci, parce que l'ensemble, c'est beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de fils qu'on peut tirer. En revanche, toute la difficulté, c'est celle-là, non ?
Bien sûr. Cette convention citoyenne, elle a proposé une vision de société, ce vers quoi il faut tendre. Et il y a beaucoup de choses qui se répondent, Stéphane le disait. Et c'est pour ça que, par exemple, sur la journée, se dire le mercredi, les enfants sont déjà fatigués, rajouter une journée de plus, le réveil, ça peut être compliqué. Alors, oui, mais... En même temps, dans la proposition déjà de faire une semaine de 5 jours, ça permet de lisser les jours, que ce soit moins fatigant chaque journée, et du coup, que le cinquième soit plus simple. Mais par contre, c'est vrai que c'est lié au temps de travail des parents, aux questions de transport, aux inégalités qui existent, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que dans les propositions, les 20 propositions de la Convention citoyenne, elles font système, mais il y a quand même des pistes sur des sujets beaucoup plus précis qui permettent vraiment de rentrer dans le sujet et de se dire « bon, il y a des choses qui peuvent être mises en place rapidement, d'autres qui vont demander du temps,
mais
évidemment. »
Par exemple, en fait, quelle est la chose qui vous semble à tous les deux le plus facile à mettre en place et qui pourrait changer la vie de l'enfant facilement et rapidement ?
Enfin, le fait de hiérarchiser les mesures, je vous dirais plutôt par thématique. On a 4 grandes thématiques, il convient d'agir sur au moins l'une des 4. La parentalité, on a parlé des écrans. C'est entre 4h48 et 5h11 le temps passé entre un collégien et un lycéen devant un écran. En termes de fatigue, ça pose aussi des questions, puisqu'ils ne le font pas lorsqu'ils sont en classe, en l'occurrence. Il y a ensuite le sujet qui traite donc effectivement du rythme, hein, les 4 jours et demi par semaine, ou 5 jours, en l'occurrence. Nous, on a suivi aussi les chronobiologistes, on a fait beaucoup d'auditions, on a entendu beaucoup d'acteurs, donc avec des avis contradictoires. On a estimé que, et même en benchmarkant avec d'autres, d'autres pays en Europe, mais pas
en
que...
En benchmarkant. Mais c'est pas grave, je vous en prie, allez-y.
Tout à fait. Donc en comparant en tout cas le système français avec d'autres systèmes, que ce soit européens ou je dirais extra-européens, ça nous a paru comme quelque chose d'intéressant à suivre. Ça répondait en tout cas à plusieurs besoins.
Xavier est avec nous, il va nous permettre de poursuivre la discussion. Bonsoir Xavier.
Oui, bonsoir Fabienne.
On vous écoute.
Merci de prendre mon message et merci pour la qualité de vos émissions. Moi je voulais vous poser la question si cela allait éventuellement s'appliquer au collège où je suis père de 2 collégiens et une élève en primaire. On a souvent l'impression que les emplois du temps sont faits pour satisfaire les besoins des enseignants et pas ceux des enfants, avec des journées à rallonge dans lesquelles il y a toutes les matières, on va dire, dures, et d'autres, des demi-journées, en tout cas pour les miens, où le mercredi, ils vont à l'école pour 2 heures de PS et de la musique, ce qui fait que le reste de la semaine est complètement surchargé.
On peut répondre à cette question, Kenza Okansé, assez facilement. Collège aussi, lycée, c'est un peu différent.
Exactement, la convention a fait des propositions pour chaque niveau.
Exactement.
C'est-à-dire le primaire, le collège, le lycée, pour justement s'adapter à chaque réalité. Et par contre, par rapport à ce qui vient d'être dit, ce qui est très intéressant, et ça c'est le premier constat des citoyens, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les temps de l'enfant sont organisés par rapport aux contraintes des parents, des professionnels, du monde socio-économique. Mais donc oui, il y a des propositions sur le collège précisément, sur le fait de débuter à partir de 9h.
Mais pardon de revenir à la charge, mais moi je voudrais savoir, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est évidemment un ensemble et ça bouleverse et ça bouscule l'ensemble de la société. Mais de fait, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'on permet, ça permet de tirer plein de fils, mais de fait on ne va pas tout faire d'un coup, c'est impossible. Je voudrais répéter cette question-là, qu'est-ce qui est simple, en fait, et qui peut changer des choses, et qu'est-ce qui peut être testé facilement, sans que pour autant ça désorganise l'ensemble du système en attendant d'avancer plus précisément. Typiquement, par exemple, 9h, est-ce que ça vous semble être le plus simple? Ou les 45 minutes de cours, qu'est-ce qui est le plus facile, qui serait marqueur et marquant avant qu'on bouleverse tout?
Alors, ce qui paraît...
Commencer à 9h, bien sûr, c'est ça que vous voulez dire.
Ce qui paraît en tout cas peut-être le plus évident, c'est de s'intéresser à la pause du midi. Je veux dire, elle existe déjà, la rendre plus qualitative, s'intéresser davantage aussi à ce que l'on mange, à ce que l'on peut faire. On a des mesures qui s'adressent notamment au bâti, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Si je me concentre sur celle-ci, on a des sujets concernant une ouverture peut-être plus différente du CDI, que ce soit un lieu plus attractif. Également, quand on est plus âgé, peut-être qu'un centre d'éducation numérique. En tout cas, on a eu aussi sur des dispositions qui permettraient à des jeunes de faire autre chose. Avoir également des moyens de faire du sport. Avoir aussi des espaces qui soient non-genrés. Enfin, je me rappelle, quand j'étais à l'école primaire, avec les copains, on occupait toute la cour à faire du foot. C'est penser un espace collectif pour que chacun se sente bien et ait quelque chose à faire. Si c'est flâner, si c'est s'ennuyer, rêver, si c'est lire, si c'est aller faire un peu de sport, si c'est au contraire aller se cultiver avec d'autres éléments, avec une liseuse, etc. Je ne sais pas, en l'occurrence.
Ça existe un peu déjà quand même. Enfin, je veux dire, les enfants ne sont pas complètement livrés eux-mêmes dans la cour de l'école sans savoir rien faire.
Alors, les pauses. Ils n'ont pas partout les mêmes moyens. Enfin, on pourrait discuter longuement de ce que l'on peut faire à l'école, mais la question des moyens dans les salles de classe, mais aussi des moyens pour ce qui est à côté, ce qui accompagnerait toute la vie scolaire, sans citer là la partie administrative, mais tout ce qui est à côté de tout ce qui est hors cours mais présent à l'école. Les établissements ne sont pas tous égaux entre eux. On pourra en parler longuement, on pourrait parler des DOM, on pourrait parler de certains territoires aussi, en province, etc., ruraux. À mon sens, sur la pause méridionale, il y a quelque chose de très simple à faire. C'est une question de volonté politique à différents niveaux. Ce sont les collectivités et puis également aussi peut-être de l'aide, un regard de l'État, du ministère, dans ce cadre-là, pour mieux le couvrir. C'est très simple. Sur les écrans, c'est aussi très simple ce que l'on propose. Et sur le droit de la parentalité...
Sur les écrans, pardon, excusez-moi Stéphane Pillon, mais non, c'est pas simple. Parce que vous proposez aussi... parce que les écrans, c'est pas juste regarder un écran. Vous proposez aussi pas de réseaux sociaux avant 15 ans. Si c'était si simple, ce serait déjà fait. Vous croyez pas que c'est un peu plus compliqué?
Alors, le fait de mettre des autorisations pour accéder à des sites, ça existe déjà, avec des effets qui sont certes discutables. Mais en l'occurrence, c'est quelque chose qui paraît plausible, en tout cas réaliste à court terme, puisqu'on a déjà pu le faire. Donc, la preuve par l'exemple, vous me demandez tout à l'heure si ça a déjà été mis en œuvre, je vous donne un exemple, on a pu le mettre en œuvre. Ensuite, il y a une idée de prévention. On est beaucoup plus sur de l'éducation au numérique plutôt que sur dire son usage est mauvais, etc. En aucun cas, nous avons tenu ce type de discours. Ça peut être très intéressant dans le cadre éducatif et surtout, on a besoin de parler du numérique et aujourd'hui de toutes les solutions innovantes qui y sont liées parce qu'on ne laissera sans doute pas des jeunes grandir sans leur apprendre un peu ce qu'est davantage l'IA, etc. Reconnaître une fake news. Je pense dans 10-15 ans, ce sont des éléments importants. Donc, ce qu'on a mis en place et ce qu'on propose dans le cadre du numérique me paraît pas le plus complexe à mettre en œuvre.
C'est intéressant, Kenzo Kassé, parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a vraiment du fond et il y a de la forme. Et encore une fois, il faut que les deux avancent ensemble. Si les deux avancent pas ensemble, c'est dommage, en fait.
Absolument. Et je pense que dans certaines mesures, mais prenons-les, voilà. Les questions du numérique, c'est pas forcément simple, mais c'est faisable à court terme. La question du début à 9h aussi, pour le collège et le lycée, ça peut faire partie de quelques symboles, en fait, qui sont faits pour dire on a compris que la situation aujourd'hui, elle était plus tenable pour les enfants. Et donc, faire avancer ça ensemble, en effet, le fond, la forme, montrer qu'on s'intéresse réellement à l'enfant et qu'on le met au centre des choses, et ça doit aller de pair avec des engagements forts de la part des décideurs publics.
C'est intéressant parce que ce qui est vraiment intéressant quand on lit la conclusion finale, c'est qu'à un moment, ici, il n'y avait pas consensus. Et notamment, là-dessus, pas tout à fait, mais sur l'idée, alors attendez, est-ce que c'est l'école qui doit complètement se plier en fait à l'enfant ou est-ce que c'est l'inverse? Je trouvais intéressant que vous ne soyez pas tous d'accord là-dessus. Il y a un moment, il faut aussi que l'enfant puisse se plier à certaines règles. Et c'est des moments où on a envie d'être sous la table, en fait, pendant que vous avez discuté, non, Stéphane Pillon ?
Non, c'est... en fait, je dirais, pour le coup, on revient à la genèse un petit peu de ce qu'est notre convention. On était donc 140, 133 pour finir, avec des parcours différents, et forcément des opinions, des convictions différentes.
Heureusement.
Sur ce sujet, on a beaucoup discuté, mais en parlant notamment des enfants qui ont des besoins spécifiques. Donc dans les besoins spécifiques, il n'y a pas que les enfants en situation de handicap, mais aussi. Et dans ce cadre-là, on se demandait jusqu'où est-ce qu'il fallait adapter. On parlait du bâti, il faut adapter le bâti. Les transports, il faut les adapter aussi. Les activités, jusqu'où allons-nous? Et dans le cadre de besoins particuliers, comment est-ce qu'on on peut gérer la responsabilité, l'accompagnement pour accompagner les professeurs? Parce qu'il est important de noter que dans toutes les mesures que l'on a proposées, il y a un soutien au corps enseignant et à l'ensemble des métiers qui gravitent autour de l'éducation, que ce soit dans les milieux, milieu général, milieu professionnel ou dans les instituts médico-éducatifs, où on a une vraie attention sur leur valorisation, leur reconnaissance. Et la reconnaissance, ce n'est pas que du salaire. C'est aussi la façon dont on peut les accompagner. Mais je vous laisse.
Pardon. Non, mais je vous en prie, je voulais qu'on retourne au standard, parce que l'un des facteurs, c'est aussi les communes, évidemment, et comment elles vont pouvoir gérer ces changements-là. Et voici Franck, justement, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, vous êtes maire d'une petite commune en Dordogne.
Oui, tout à fait, à Saint-Georges-de-Montclar, okay. Il y a donc j'ai moins de 300 habitants et j'ai la chance, parce que c'est une vraie chance, d'avoir une école sur mon territoire, avec un rassemblement pédagogique intercommunal sur 6 communes. Et voilà, moi je suis un fervent défenseur de la démocratie participative, et donc cette convention citoyenne, pour moi, a beaucoup de chance. Mais je voulais alerter quand même sur un sujet qui me semble essentiel, c'est que les communes supportent le coût de l'école de manière extrêmement importante. Moi, j'ai la chance d'avoir donc 2 classes dans mon école, avec notamment des maternelles, et j'ai du personnel qui est là pour accompagner les enfants dans leur parcours éducatif. Et bien évidemment, c'est la commune, petite commune, qui en a la charge, même si l'intercommunalité nous aide sur le fonctionnement de l'école au niveau de tout ce qui est fluide. Je suis assez inquiet si les temps périscolaires s'agrandissent. Nous, on est à 4 jours et demi, on est une des rares écoles.
À être resté à 4 jours et demi, j'allais vous poser la question.
4 jours et demi sur un projet éducatif de territoire qui a du sens, avec des activités de qualité. Mais tout ça a un coût, et c'est vrai qu'au regard des restrictions budgétaires qu'on nous annonce pour les années à venir, je vous avoue mon inquiétude sur ce sujet.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Franck. Forcément, c'est rentré en ligne de compte dans les discussions, Kenza Okansé. Est-ce que c'est vous, d'ailleurs, qui, pendant la convention, mettez de temps en temps des warnings en disant « Attention, l'argent, ça va coûter ». Et c'est clair, ça va coûter.
Alors, les citoyens se sont parfaitement appropriés cette question d'eux-mêmes. Ouais. Justement, à la fois pour se dire qu'il faut être en capacité de faire des propositions qui vont changer les choses dans la société, et donc, du coup, qui vont avoir un impact financier, budgétaire important, et en même temps, cette volonté d'être dans le concret et dans le réalisme pour que ça se fasse. C'est très intéressant. Et la question des petites communes, elle a été centrale. On a fait des ateliers dans les territoires tout l'été, notamment dans une commune de moins de 600 habitants. Et en fait, on a vu des choses évidemment extrêmement compliquées, avec une mère qui devait elle-même aller servir les enfants le midi, quand il y avait un arrêt maladie, quelque part. Donc évidemment, c'est compliqué. Mais en même temps, ce rapport-là, il doit servir aussi aux maires des plus petites communes, à celles et ceux qui sont dans la difficulté, parce que les citoyens l'ont vu et l'ont dit, d'aller demander plus de moyens pour cette organisation-là.
Est-ce qu'on a fait cette espèce d'audit-là, en fait, Stéphane Pillon ? C'est-à-dire, on sait qu'on a essayé 4 jours et demi, ça a été le cas en 2014, tout le monde s'y est mis, et puis finalement, 4 ans plus tard, en 2018, 85% des communes reculent. Donc est-ce qu'il y a ça aussi à l'intérieur de la convention ? Quelqu'un qui dit, alors, pourquoi ça n'a pas marché ? Et donc, qu'est-ce qu'on ne doit pas refaire aujourd'hui avec les 5 jours comme erreurs qui ont peut-être été commises au moment de la loi Peillon, en fait ?
Alors, je vais juste faire un petit propos introductif, pardon. Mais ces questions de financement, on se les est posées. On a eu la chance de recevoir une sous-directrice au budget qui nous a montré quelques grands chiffres, etc. Au-delà de ce que cela peut impliquer, puisqu'en fait, tout est une question de priorité, de choix budgétaire, de choix politique, de politique publique, etc. Qu'est-ce que cela veut dire de nous comme société, le fait qu'on se pose une question sur le coût de l'éducation, des apprentissages, de la santé, du développement des enfants ? Qu'est-ce que ça dit de nous comme société ? Qu'on soit là à se poser des questions sur parfois des points de détail. Je laisse la question ouverte simplement, mais ça doit nous interroger. Pour revenir sur votre point.
La question, c'était, est-ce qu'on a regardé pourquoi, qu'est-ce qui a échoué avec la loi Peillon qui fait que tout le monde est revenu en arrière, ou que beaucoup sont revenus en arrière ?
On a reçu quelques municipalités, en tout cas des représentants de certaines villes de France, d'ailleurs de différentes tailles, pas que des grandes villes. Certaines étaient donc à 4 jours et demi. On a vu la ville de Rennes, on a Épinal, on a d'autres villes que nous avons pu comme ça auditionner. Ce qu'on peut constater d'une part, c'est qu'il y a un certain souffle court dans les politiques publiques de l'éducation où on change vite d'avis. Donc il n'y a pas d'évaluation. Quand on demande des évaluations sur des réformes qui sont passées, en fait on ne les trouve pas. Alors il y a énormément de rapports qui disent quoi faire, mais il y a très peu d'évaluations sur ce qui a été fait dans la durée. Donc il n'y a pas beaucoup de retours critiques. Et tout est critiquable, mais on ne commence pas par l'autocritique. C'est un petit peu dommage. En l'occurrence, les villes qui ont continué sur 4 jours et demi ont fait des choix budgétaires. C'est difficile, c'est courageux. Ils en ont peut-être plus les moyens que le maire que nous avons entendu tout à l'heure dans une ville de 300 habitants.
Qui pourtant restait à 4,5. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Donc c'est très courageux. Et moi, je le salue pour ça. C'est s'intéresser à pourquoi est-ce que aussi eux l'ont fait. Parce que l'exception a permis aussi, dans des cas de disette budgétaire, de pouvoir arbitrer sur l'éducation. Donc, est-ce que, au final, le fait qu'on ait eu collectivement pas le choix que faire le deuil des 4 jours et demi pour 4 jours afin de sauver un peu d'argent, avec les conséquences induites derrière. C'est évoqué tout à l'heure, j'étais très heureux de l'entendre. Le fait d'avoir 4 jours par semaine, eh bien, ça met des personnes en, très souvent en tout cas, soit en garde, donc des coûts, soit également en, activité partielle. On sait très bien qui paye le plus l'activité partielle en France et que souvent, elle n'est pas choisie, elle est subie. Donc, s'intéresser au temps de l'enfant, c'est s'intéresser à tout ce qui gravite autour de l'enfant. Il y a la question des parents, la question du périscolaire que vous avez évoqué, mais c'est un tout. C'est pourquoi l'ensemble de ces mesures sont à prendre, dans, je dirais pas dans, l'intégralité de la même façon, mais en tout cas comme un développement. Vous avez dit tout à l'heure que c'est prendre, on prend tout et pas par petits bouts. Je pense qu'on peut avancer justement par petits bouts en fonction, parce qu'il y aura un plan éducatif territorial qui est proposé, donc les acteurs locaux pourront discuter entre eux avec des parents d'élèves, avec des élus, avec aussi des enfants. J'ai déjà lu, je crois sur Twitter et autres, que, sur X, pardon, que les enfants, pourquoi ils seraient là, etc. On laisse aujourd'hui nos enfants être référents harcèlement dans des collèges, et ils ne seraient pas capables de pouvoir s'exprimer sur ce qui est bon pour eux, ce que sont les transports pour eux. Il y a des conseils municipaux des enfants qui sont largement en capacité d'eux. Donc, pardon.
Je finissais quand même votre phrase. Je voulais juste qu'on retourne au standard, mais je vous en prie, je ne voulais pas vous interrompre au milieu de la phrase. Il faut qu'on soit en capacité d'eux et...
Non, c'est donc via ces projets éducatifs de territoire que nous rendons obligatoires aujourd'hui, sont facultatifs, avec donc un cahier des charges qui en tout cas serait diligenté par le ministère, nous pourrions aller plus loin. Et dans le cadre des territoires où il y a moins de moyens, on peut penser à de la péréquation, on peut penser autrement les budgets et raisonner à un niveau de l'intérêt général et pas simplement à une logique de territoire, d'une frontière, de canton, autre chose. Je pense que ce serait pertinent pour tout le monde, et notamment pour les ultramarins.
Ça fait un sacré chantier quand je vous écoute. Non, mais sincèrement, vive les grands chantiers, hein, mais c'est un sacré chantier ce que vous mettez en face de nous là. Voilà. Il y a Kenzo Okase qui fait oui avec la tête, c'est un sacré chantier en face.
Ouais. Ce que les citoyens ont montré, c'est que en fait, on pouvait être ambitieux et réaliste et responsable en même temps. C'est ce que propose ce rapport.
Voici justement Emmanuel qui est enseignante. Emmanuel, bonsoir.
Oui.
Soyez la bienvenue, Emmanuel.
Merci, bonsoir. Oui, je suis enseignante dans le premier degré.
Ok.
Depuis 25 ans, donc effectivement, on a connu la réforme des rythmes en 2014. Moi, je suis dans une commune où on est resté longtemps, plus longtemps que les autres communes du département. Et effectivement, le problème a été la qualité des activités proposées, parce que pas assez d'intervenants.
Du périscolaire, vous voulez dire
Pas assez de personnel formé, pas assez d'intervenants, pas assez de structures. Ce sera encore un projet avec, à partir du moment où c'est des collectivités locales qui doivent porter ces activités. Ça sera encore une grande disparité entre les communes qui ont des infrastructures sportives, des infrastructures culturelles et celles qui n'en ont pas. Voilà, ça va être encore très inégalitaire. Et évidemment, on en reviendra toujours au nerf de la guerre. Ça va être le budget, comme on l'a entendu avec les intervenants précédents. Si on voulait aussi vraiment se consacrer au bien-être de l'enfant dans la communauté éducative, peut-être que si dès la maternelle, on n'avait pas 28 élèves de petite section ensemble dans un même espace, peut-être qu'effectivement, les enfants pourraient supporter leur journée de classe autrement. Et ce que je voulais dire en dernier, c'est que ça ne réduira pas le temps de collectivité des enfants. Certes, ça réduira le temps dans les classes, mais un enfant, à cause des contraintes des parents, arrivera toujours tôt à l'école et repartira toujours tard le soir. Mmh. Moi, dans mon école, il y a 65% des enfants qui restent à l'école jusqu'à 18h, voire 18h30. Mmh. Ça ne réduira pas la journée d'un enfant.
Merci Emmanuel pour ce témoignage d'enseignante. Il y a deux choses dans ce que nous dit Emmanuel. Il y a d'abord l'inégalité territoriale qui avait été pointée du doigt effectivement au moment de la loi Peillon. Comment est-ce qu'on peut supprimer, ça n'existe pas, mais amoindrir cette inégalité territoriale en termes, c'est ce que dit Emmanuel, d'infrastructures par exemple et de propositions des activités périscolaires.
Ça passe notamment
Allez-y, Kenza Okansé, mais l'un et l'autre, allez-y, ouais. Allez-y, non, Kenza,
c'est
et puis
Stéphane. C'est ce qui vient d'être dit aussi par Stéphane, assez rapidement. En effet, ça passe par ces nouveaux projets éducatifs de territoire, par de la mise en commun, par le besoin de mieux accompagner. Et ça, par contre, le rapport le dit, il faut mieux accompagner les communes aussi dans le développement de ces activités. Il faut renforcer le cadre aussi et le statut de tous ceux qui participent, autant des enfants, y compris dans les activités périscolaires, extrascolaires. Et je veux juste dire un petit mot par rapport à l'intervention d'Emmanuel, et après je laisse la parole à Stéphane. Ouais. Ce qu'elle dit sur le nombre d'élèves par classe, évidemment, évidemment. Et en fait, dans le rapport de la Convention citoyenne, il y a une partie qui s'appelle les conditions indispensables à la réussite. Et précisément, la question de la réduction du nombre d'élèves par classe fait partie de ces conditions indispensables, parce que ça a bien été compris, et c'est important de le dire, que rien ne s'oppose dans ce rapport, justement. Le but, ça a été de construire ensemble pour réussir à proposer quelque chose pour la société.
Dans l'une des remarques d'Emmanuel, Stéphane Pillon, il y a le fait que les parents, de toute façon, travaillant, les enfants arriveront toujours à 8h et seront obligés de finir à 18h. Je voudrais y mettre cependant qui est Morgane au standard et qui nous dit ceci, mais est-ce qu'il n'est pas possible d'adapter la société qui travaille aux nouveaux horaires scolaires. Dans un monde idéal, c'est effectivement comme ça que ça se fait. Ça va être compliqué d'adapter immédiatement le monde du travail. Donc, là aussi, en fait, qu'est-ce qui se passe pour le gamin qui arrive à 8h ou 8h30, parce que ce sont les horaires des parents, sachant que les cours effectivement commencent à 9h. Est-ce qu'il est vraiment moins fatigué, en fait, ce gamin, dans ces cas-là? Ou comment on fait pour qu'il soit moins fatigué?
On propose tout d'abord que l'arrivée à 9h, donc, soit par un accueil échelonné. Parce qu'on peut déposer son enfant un peu plus tôt, etc. Et donc, c'est pas les parents qui seraient tous ensuite dans les bouchons, à s'agglutiner, etc., arrivant en retard au travail. Non, on peut le penser autrement. On va me dire, oui, mais dans ce cas-là, l'enfant, il s'est réveillé plus tôt. Certes, mais il a un temps d'éveil où il sera avec d'autres personnes. Il ne va pas être tout de suite mis devant une interrogation, autre chose. Donc, ça participe à ce qu'il puisse se sentir mieux. En tout cas, en suivant les chronobiologistes, c'est des choses qu'on a pu entendre. Et puis il y a également juste un chiffre, il y a 3 à 4 enfants qui arrivent le matin le ventre vide. Il y a des réalités en termes d'inégalité, pour le développement des enfants qui sont liées à des fragilités familiales, qui sont liées au pouvoir d'achat, etc. Donc des choses qui sont systémiques, hein, tout va se regrouper, qui nous ont incité en tout cas à réfléchir sur un accueil qui puisse être amélioré, qui puisse être au bénéfice de leur apprentissage, et c'est quand même mieux d'avoir mangé pour pouvoir travailler.
Certes, oui.
À côté, sur ce qu'on peut faire pour aider sur le temps justement de transport et autres. Je l'avais évoqué tout à l'heure sur le premier point. Nous, on a estimé que c'était 45 minutes qu'il fallait viser pour pouvoir se rendre à son établissement. Alors 45 minutes, ça paraît long, mais c'est très rapide en fait. Et surtout, on a conscience que ce n'est pas pleinement réaliste. Je vais vous dire, je vais prendre le territoire de La Réunion par exemple. Ce n'est pas en rajoutant 1000 bus en fait, qu'on permettra aux enfants de pouvoir aller à leur établissement. Il y a un problème structurel. C'est les infrastructures routières. Donc on a eu la chance d'avoir la Guyane, la Réunion et puis aussi un Mahorais qui était avec nous dans la convention. On a pu apprendre beaucoup de leur réalité, de leur vécu. Et donc on sait qu'il y a des limites. Eh bien, c'est dans les territoires, donc on n'a pas eu du PEDT, mais on a aussi un plan mobilité jeune, avec donc les acteurs du transport, qui réfléchiraient à ces questions. On peut créer des hubs temporaires, etc., pour gagner du temps. Ensuite, sur la journée, jusqu'à 18h, le cas échéant, donc ça veut dire que on souhaite donc son enfant reste longtemps à l'école. Effectivement, on n'a pas, nous, choisi si obligatoire ou pas obligatoire. Ce qui est important, c'est que les parents aient l'assurance que leur enfant fasse quelque chose d'intéressant, d'utile. D'utile même si c'est pour simplement se dépenser, etc. Même si je pense que faire du sport, c'est bien, puisque les questions de poids, d'obésité et autres, ce sont des sujets. Donc c'est de proposer un cadre où les parents sauront exactement ce que font leur enfant. Et en plus, ils pourront le choisir, etc. Pour le culturel et le sportif, on propose un forum en début d'année. Ils doivent en choisir au moins l'un ou l'autre. Donc on est en tout cas à soutenir absolument tous les types d'apprentissage.
Roland est avec nous. Oui, Roland, pardonnez-moi, Roland, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous
bonsoir.
Écoute.
Voilà, oui, moi j'ai appelé votre émission parce que j'ai été instite en rural pendant 35 ans. Et en fait, cette histoire des rythmes scolaires, ça a toujours été l'arlésienne, quoi. Et moi, les remarques que je peux vous faire ce soir, c'est que, notamment au fait qu'on est passé à 4 jours, dans la Loire, on était à titre expérimental en semaine à 4 jours.
Ensuite, on est passé avec la réforme Payan à 4 jours et demi. Puis, on a dit aux communes, bah, vous faites comme vous voulez. Donc, nous, on était revenus à 4 jours. Et du coup, je me souviens du désarroi de mes parents d'élèves qui, dans leur entreprise, avaient été complètement obligés de modifier leur journée de travail pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, parce que quand on était à 4 jours et demi, on finissait à 15 heures, donc du coup, obligés de revenir les chercher pour certains. Et puis surtout, en rural, j'ai le souvenir d'enfants qui arrivent à l'école très tôt le matin et qui repartaient très tard le soir, parce que les parents habitant dans le village, travaillant dans la ville la plus proche, elle est à 25-30 kilomètres, pour certains, c'était vraiment la course permanente, quoi.
Et du coup, vous en êtes où, là, maintenant? Alors, vous êtes arrêté sur quoi, finalement?
Eh ben, on est revenu, enfin, moi, maintenant, je suis en retraite depuis 5 ans, maintenant, mais on était revenu à la semaine à 4 jours, quoi.
Et alors, si on vous dit, vous, et y compris, d'ailleurs, dans une commune rurale comme la vôtre, on peut l'imaginer différemment, mais du coup, il faudra toucher aux vacances, celles de l'été, ce que la Convention n'a pas fait, est-ce que vous dites chiche, ou est-ce que vous dites non, surtout pas, c'est encore pire? Ouais.
Écoutez, j'ai fait partie du mouvement Freinet, j'ai été militant pendant des années dans le mouvement Freinet, et c'était déjà une question dans les années 85-86 qu'on abordait le rythme des enfants, parce qu'on s'apercevait très bien que la journée scolaire était vraiment trop chargée. Alors on en était arrivé à la conclusion que effectivement peut-être réfléchir à l'organisation des vacances scolaires différemment, de façon à alléger la journée scolaire, était une piste possible. Ensuite, ce qui nous plombe dans l'éducation nationale, c'est chaque ministre fait sa petite réformette, quoi. Donc, à un moment donné, ce manque de stabilité et de vision à long terme est carrément préjudiciable pour justement mettre en place des mesures en termes de management du temps qui soient efficaces, quoi. Voilà.
Merci, Roland, pour votre intervention. Pourquoi les grandes vacances, finalement, ont été... finalement, j'en sais rien, d'ailleurs. J'imagine que vous en avez discuté. Au final, pourquoi on ne change pas les grandes vacances? Ça a été tellement dans l'air. Quelle a été votre réflexion pour vous dire, finalement, on garde le nombre de semaines des grandes vacances?
Alors, c'est peut-être l'un des points où on a peut-être manqué de temps, en tout cas, pour se mettre d'accord.
On a traité... Ah, il y avait débat, donc c'est ça que ça veut dire, en fait. Mais tant mieux, hein.
Oui, il y avait débat. Il y a aussi le fait que, on est des citoyens, comme tout le monde, que la question du tourisme, de l'emploi, des saisonniers, à chaque fois qu'on a mis, en tout cas, une mesure en place, on s'est posé la question de l'impact que cela peut avoir. Si on a pensé à l'accueil échelonné, c'est que, on fait attention à 9h du matin, etc. On a réfléchi à la manière dont on pourrait traiter le sujet en ayant et que ce soit positif pour un maximum d'acteurs. Aujourd'hui, on sait, l'auditeur juste avant vient de le dire, qu'il y a eu plein de réformes successives, que le suivi, en l'occurrence de celle-ci, a été plus que partiel. On a toujours modifié ce qui était mis en place. Je pense que ce qui est intéressant dans l'une autre de nos mesures, pour faire un lien et continuer sur notre rapport, c'est la création d'un ministère un peu plus robuste de l'enfance, je vais le dire comme ça, et qui concentrerait l'ensemble des pouvoirs régaliens, en tout cas directs, administratifs, qui permettraient de traiter tous les sujets dans son propre ministère.
Le ministère de l'enfance, surtout, ça n'existe plus, le ministère de l'enfance.
Vous avez raison,
pas,
effectivement.
Est-ce que ça existait vraiment un jour, le ministère de l'enfance?
Ça existait par le passé, c'est depuis quelques temps. On a une autre commissaire à l'enfance maintenant, mais ça n'a pas le statut de ministre. Et en l'occurrence, ce ministère qui concentrera des pouvoirs sur la santé, sur le handicap, des questions de transport, aurait beaucoup plus de latitude pour travailler directement. On éviterait ensuite, alors c'est technique, mais les bons jaunes, bons oranges, bons bleus, enfin tout ce qui est interministériel en termes de budget, ce serait directement le même ministère et qui suivrait une logique de plus long terme. C'est peut-être un gros mot aujourd'hui, puisqu'on a tendance à renverser la table assez souvent d'ailleurs récemment, mais en tout cas plus long terme, parce que quand on pense une éducation, il faut quand même gérer une classe d'âge dans la durée. C'est pas admissible de faire des changements qui changent toute la scolarité, l'orientation d'un élève alors qu'il n'a pas fini son cursus. Et que nous, on est dans cette dimension-là, en tout cas, de soutenir cette proposition également.
Il nous reste peu de temps, mais je voudrais quand même qu'on écoute Pauline. Bonsoir Pauline.
Bonsoir.
On vous écoute Pauline.
Non, mais je voulais juste donner mon témoignage. Donc,
je vous en prie.
Des filles qui était scolarisée en France jusqu'à il y a 3 ans et demi, ou jusqu'à il y a 4 ans, et actuellement on habite en Suède, à Stockholm, et on est dans le lycée français de Stockholm, donc c'est bien le système français, mais en Suède. et les rythmes sont tout à fait proches de ceux qui sont exposés dans le rapport. Et c'est vrai qu'on a vu vraiment des différences, et notamment aussi sur les devoirs, puisqu'il y a vraiment un accompagnement aux devoirs après la sortie des classes, après 15 heures. Et bien sûr, la mise en place de, d'un certain nombre d'activités après 15 heures.
Mmh.
Voilà.
Les horaires de la société en Suède, elles disent quoi, en fait, par rapport à nos horaires à nous en France? C'est-à-dire, est-ce qu'on finit tard ou pas? Ben, c'était le sens
elles
de ma question, en fait.
Les horaires de travail sont assez proches, mais c'est vrai que l'enfant, enfin, le bien-être de l'enfant est tout à fait mis en avant. Et après, il y a tout à fait des possibilités de garde, en fait, avant 9h, qui est l'heure, l'heure habituelle de début d'école, jusqu'à 15h. Et donc, il y a des possibilités de garde, en fait, avant 9h et après 15h.
Pauline, merci beaucoup pour votre témoignage. Il nous reste très peu de temps, mais c'est vrai qu'à chaque fois, et alors quand je dis à chaque fois, c'est pas la semaine dernière, il y a 15 jours, il y a un an, il y a 5 ans, depuis 15 ans, 20 ans, à chaque fois, on met en avant le système d'Europe du Nord, le système allemand, le système britannique. Et pourtant, on ne l'a jamais fait.
Moi, je pense que c'est justement la preuve que c'est faisable, ce rapport citoyen. D'autres l'ont fait, certains le font au niveau local. Et ce que j'aimerais dire vraiment, pour terminer, c'est qu'en fait, tous les progrès de société ont toujours été, au début, un peu lynchés, parfois dit, mais c'est infaisable, c'est extrêmement compliqué. Mais en fait, cette convention citoyenne, je tiens à le dire, c'est une convention citoyenne de progrès, qui appelle à un vrai progrès de société sur ce sujet-là, et des exemples à l'étranger montrent que c'est faisable. Des citoyens qui sont réunis ont montré qu'on pouvait le penser ensemble, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir.
Et ça dit aussi qu'il y a une base de travail, en tout cas, et que c'est à partir de cette base de travail que j'espère on avancera. Je vous remercie chaleureusement tous les deux.
Merci.
De votre participation.
Merci à vous.
Passion au téléphone sonne, et à vous tous pour vos nombreux appels. La question des petits bateaux, c'est celle de Joseph, il a 7 ans et demi.
Je me demande pourquoi on a inventé TikTok.
Eh ben moi aussi. Allez, réponse dans 3 minutes.